Il est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. La chanteuse et comédienne Régine, figure et reine de la nuit, est morte ce matin. Elle avait 92 ans. Dans un communiqué, sa famille indique que Régine est partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante. Elle avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier. Nous rendrons hommage dans ce journal à Régine, reine de la nuit, femme d'affaires et travailleuse acharnée. Dans l'actualité également, les défilés du 1er mai, très politique à quelques semaines des élections législatives. Les syndicats appellent à défiler pour la défense du pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Les étudiants, les lycéens manifestent également, ainsi que les parents d'élèves, invités de ce journal, Carla Dugo de la FCPE. La visite surprise ce matin de Nancy Pelosi à Kiev, la présidente de la Chambre des représentants est venue manifester le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Dans le même temps, première évacuation de civils réussie à Mariupol, la ville martyre sur la mer d'Azov. Et nous terminerons avec le Goncourt version américaine, première édition attribuée à Anne Berest pour son roman La carte postale, la météo, encore des nuages. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler.
Régine, les petits papiers, une chanson que lui avait écrite Serge Gainsbourg en 1965. On lui doit encore La Grande Zoua, notamment. On a donc appris ce matin la mort de Régine, chanteuse, comédienne, meneuse de revue. Régine avait 92 ans. Elle nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11h en région parisienne, a annoncé sa petite fille, Daphné Rodecage. Régine, artiste reconnue, avait été l'invitée d'Augustin Trapenard dans Boomerang le 25 décembre 2015. Et elle parle de sa relation au travail, une travailleuse acharnée.
J'aime que travailler de toute façon. Je ne conçois pas un jour sans travailler. Je bois pas, je fume pas, j'ai beaucoup d'humour. Je dis tout ce que je pense. Ça fait du bien de dire tout ce qu'on pense, hein. Je suis capricorne, je suis discipliné, je suis toujours à l'heure, je supporte pas qu'on soit en retard.
Il y a forcément un moment dans votre carrière où vous avez failli tout lâcher, non? Vous avez pensé, envisagé, abandonner?
Faire des ponts d'or pour que je sois seulement chanteuse. J'ai réfléchi, et qu'est-ce que j'ai eu dans mes yeux? Tassin qui pleurait au bar, c'est moi qui lui ai trouvé sa première chanson, bip bip. Claude François, c'est moi qui lui ai trouvé Belle Belle Belle. Puis quand ils avaient pas de tube, ils étaient prêts à se suicider, enfin n'importe quoi. J'ai dit non, mais moi je veux pas être dans cet état du tout, moi je veux pas dépendre des autres, c'est tout.
Et quand je serai née, je survivrai, je survivrai, je survivrai, je survivrai, j'ai tellement sur terre de choses à faire que...
Régine, dans Boomerang en 2015, que l'on peut bien sûr réécouter cette émission sur franceinter.fr. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Frédéric.
Alors Régine, on vient de l'entendre, a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l'étranger. C'était une travailleuse acharnée. C'est aussi ce matin une partie de notre héritage commun qui disparaît.
Oui, elle a animé jusqu'à 18 clubs à travers le monde, de New York à Paris, de Rio à Saint-Tropez. En fait, Régine, elle a inventé le concept de la discothèque. Elle ouvre sa première boîte en 56, chez Régine, dans le quartier latin. Françoise Sagan en assure la notoriété. On y croise le tout Paris, Brigitte Bardot, Nourrieff, mais aussi des hommes politiques comme Georges Pompidou. Vous l'avez dit, c'est une femme d'affaires. Elle a lancé des parfums. Elle sort son premier disque en 65. Elle a été soutenue au départ par Charles Aznavour et puis Serge Gainsbourg, qui lui offre ce premier grand succès, Les Petits Papiers, mais c'est La Grande Zoa interprétée avec son fameux boa à plumes qui l'impose dans le milieu comme une chanteuse rigolote à la gouaille parisienne. Elle chante au Carnegie Hall de New York, devenant avec Edith Piaf et Lynn Renault une des rares françaises à conquérir l'Amérique. Et puis, dans les années 90, la roue tourne. Régine essuie ses premiers revers avec l'aventure malheureuse du Palace. Elle est contrainte de fermer l'établissement pour trafic de drogue. Elle perd alors beaucoup d'argent et fonde dans la foulée SOS Drogue International pour venir en aide aux toxicomanes en situation d'exclusion. Infatigable, à 86 ans, elle décide de remonter sur scène aux Folies Bergères pour ce qui sera sa dernière revue.
Stéphane Capron et donc Régine, 92 ans, nous a donc quitté ce matin à 11h, ce 1er mai. Un 1er mai entre présidentielle et législative, teinté de revendications politiques. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de plusieurs villes de France ce dimanche, avec notamment les syndicats et des messages centrés sur le pouvoir d'achat, les retraites et les salaires. Un 1er mai en forme de rendez-vous social. À Paris, le cortège partira à 14h30. Un parcours classique, République Nation, Place de la République. On retrouve Julie Drouin. Bonjour Julie.
Bonjour Frédéric.
Alors les syndicats espèrent mobiliser pour ce rendez-vous très politique.
Oui, plus de 200 rassemblements sont prévus partout en France. C'est plus que les années précédentes, disent les syndicats. Il faut dire que cette année, vous l'avez dit, le 1er mai revêt une importance particulière. Une semaine juste après l'élection du président de la République. C'est donc un premier test pour Emmanuel Macron. De quelle ampleur sera cette mobilisation pour appeler à améliorer les conditions de travail, le pouvoir d'achat et dire non à une nouvelle réforme des retraites? Pour l'instant, la place de la République à Paris se remplit doucement. Le cortège ne s'élancera qu'à partir de 14h30. Mais l'enjeu de ce 1er mai, c'est aussi et surtout pour la gauche. La France insoumise, arrivée troisième du scrutin présidentiel, tente de rassembler les différentes forces de gauche depuis plusieurs jours. LFI avait l'espoir de défiler aux côtés des écologistes, des socialistes et des communistes ce dimanche. Mais malgré des négociations qui ont duré encore une bonne partie de la nuit, un accord n'a pas été trouvé. C'était un symbole en ce 1er mai, à un peu plus d'un mois des législatives, pour peser dans le paysage politique, pour tenter de s'imposer dans ce troisième tour. Mais si les responsables politiques de gauche seront présents aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure pour les socialistes ou encore Julien Bayou chez les Verts, il n'y aura toujours pas de bannière commune à afficher.
Julie Drouin avec Georges Otto. Vous parliez de cet accord en négociation entre la France Insoumise et le Parti Socialiste qui provoque de très gros remous au Parti Socialiste. Olivier Faure, qui est l'actuel premier secrétaire du PS, était l'invité de Questions Politiques sur France Inter juste avant ce journal. Et lui, il espère toujours parvenir à un accord. On l'écoute.
Il y a une vraie discussion. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est la vérité. C'est que si nous avons la prétention de gouverner demain, il faut être d'accord sur le fond et ne pas être simplement dans une forme de tambouille électorale, mais de chercher un accord qui permette de gouverner ensuite ce pays pendant 5 ans. Et donc, c'est sérieux. Gouverner, c'est sérieux. Et donc, ça suppose que sur chaque point, on puisse revenir en détail, se demander si on peut se comprendre, s'entendre aussi, parce que parfois, les insoumis ont des mots qui sont des mots très forts, qui recouvrent des réalités qui peuvent être partagées, mais qui supposent là aussi qu'on se comprenne vraiment. Donc, c'est le travail qui a commencé, que nous poursuivons et que nous allons continuer dans les prochaines heures.
Olivier Faure, premier secrétaire du PS, avec Thomas Snegaroff. Alors, les traditionnels défilés du 1er mai ont eu lieu un peu partout en France. La CGT a annoncé plus de 200 points de rassemblement aujourd'hui. Les manifestations les plus importantes ont eu lieu ce matin à Nantes, Montpellier, Marseille ou encore Bordeaux notamment, défilé également à Strasbourg. Le reportage de Jules Hoss de France Bleu Alsace.
Un point de départ vers une union pour les législatives. C'est ce qu'appelle de leur vœu l'immense majorité des manifestants, comme Daniela, venue avec son fils Mathias.
C'est bien, mais j'aime pas voir des gens pauvres.
Elle croit dur comme fer à cette union de la gauche.
Là, on a les élections législatives qui arrivent, et c'est le moment d'être tous derrière la nouvelle Union populaire et l'union de tous ceux qui veulent changer les choses.
À l'avant du cortège, l'intersyndicale défile avec une bannière résistance. À l'arrière, les partis politiques ont choisi une affiche retraite à 60 ans pour faire front commun. Mais ce front commun, il n'existe pas encore, selon Sandra Regol du parti Europe Écologie Les Verts.
Non, c'est pas un 1er mai différent. Il aurait pu l'être, mais il l'est pas. Parce qu'on n'a pas assez avancé encore. Donc on aurait pu arriver tous ensemble et rassembler, oui. C'était même une très très belle idée, mais on n'y est pas encore. Et je ne sais pas si tout le monde ici est déjà arrivé à ce point-là.
Pascal, qui a connu de nombreux 1er mai, désespère, elle, de voir si peu de monde.
Il y a un endormissement de la population, puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à terminer leur fin de mois, et du coup, être en manif, c'est pas forcément la priorité.
Autre explication avancée dans le cortège, le dimanche qui mobilise toujours moins est l'horaire matinal de la manifestation.
Jules Hoss, à Strasbourg, de France Bleu Alsace. Des manifestations du 1er mai, à l'appel des syndicats, bien sûr, des organisations de jeunesse, les étudiants, les lycéens, mais aussi à l'appel des parents d'élèves. Invitée de ce journal, Carla Dugo, coprésidente de la FCPE nationale, la première fédération de parents d'élèves. Bonjour Carla Dugo.
Bonjour.
Alors on l'a entendu, un 1er mai très politique. Comment vous inscrivez-vous à la FCPE dans cette journée d'action et de manifestation ?
Bah écoutez, oui, effectivement, la FCPE appelle tous les parents en fait à défiler partout en France. Et en fait, la FCPE réclame tout d'abord plus de droits pour les salariés qui bénévolement participent au fonctionnement de l'école de la République, dont les parents, puisque les parents sont aussi salariés puisqu'ils travaillent. Et c'est vrai que pendant la pandémie, les parents d'élèves ont contribué fortement à l'effort national pour que l'école fonctionne au mieux. Et c'était parfois compliqué. Il fallait discuter avec l'employeur. Donc il y a quand même besoin d'un statut, d'un véritable statut pour les représentants de parents d'élèves. Et ça c'est quelque chose qui sera demandé en tout cas lors des défilés aujourd'hui du 1er mai.
Donc un véritable statut, une reconnaissance également. Quel droit précisément pour les parents d'élèves qui travaillent avec les professeurs et les élèves à l'école?
Bah tout à fait. Bon, déjà une décharge en fait, plus de temps pour les représentants de parents d'élèves qui doivent et qui siègent dans beaucoup d'instances pour défendre l'école publique, pour défendre aussi les élèves et leurs familles, aussi des congés parce que justement lorsque il y a eu cette pandémie, ce n'était pas toujours évident alors que les parents devaient télétravailler au même temps s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Donc tout ça c'était très compliqué et on sait qu'il y aura d'autres phénomènes de ce type-là, donc il faut anticiper les choses. Il faut aussi aujourd'hui, plus que jamais, dans la société dans laquelle nous sommes, valoriser en fait le travail bénévole des acteurs de terrain, que sont par exemple les parents d'élèves. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment continuer à reconnaître ce rôle. Ce sont des personnes qui contribuent au quotidien à ce que la société fonctionne mieux. Il y a de nombreux combats qui nous attendent encore. Et après, bien sûr, lors de ces défilés, on réclame aussi des droits fondamentaux comme le droit à l'éducation, le droit aussi à une vie décente, hein, parce que aujourd'hui, on a de plus en plus d'élèves qui n'ont pas toujours de foyer, de toit au-dessus de leur tête. Donc,
il y a des élèves à la rue.
Oui. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de familles qui soit vivent dans des hôtels sociaux, soit vivent dans la rue. Et donc, ces enfants arrivent à l'école, donc n'ont pas les mêmes conditions non plus pour apprendre, pour étudier. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on revendique aujourd'hui, en ce 1er mai.
Carla Dugo, est-ce que la réforme du lycée, la réforme du bac font aussi partie de vos revendications, le fait que le lycée fonctionne mieux ?
Oui, tout à fait. La réforme du bac est un sujet qui est important, qui n'est pas du tout réglé, loin de là, puisque la réforme du lycée qui a été enclenchée par le ministre de l'Éducation, donc Jean-Michel Blanquer, n'a pas abouti et loin finalement de la prise en considération de l'élève, de son épanouissement, de son rythme. Donc il va falloir travailler avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative sur ce sujet-là, mais pas seulement. En fait, la FCPE demande, et justement les législatives qui vont arriver en juin sont aussi sont porteuses d'espoir pour beaucoup de parents d'élèves. Et en fait, on veut davantage de moyens pour l'école de la République, ne serait-ce que par exemple limiter les effectifs par classe, remplacer les professeurs absents, donc embaucher aussi massivement des personnels de l'éducation nationale. Accentuer par exemple aussi la politique d'accueil des enfants en situation d'handicap. On en est encore très loin et encore plein de choses. Mais en tout cas, oui, il y a des choses à faire et il faut associer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et lorsqu'il s'agit de parler de l'école de la République.
Et on a bien entendu vos propositions. Merci Carla Dugo, coprésidente de la FCPE nationale, la première fédération de parents d'élèves. Merci à vous. L'actualité à l'étranger et la visite surprise de Nancy Pelosi à Kiev. La présidente de la Chambre des représentants a rencontré le président Zelensky pour manifester le soutien des États-Unis à l'Ukraine. La visite de Nancy Pelosi à Kiev intervient une semaine tout juste après le déplacement d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Nancy Pelosi.
Monsieur le Président, notre délégation du Congrès a eu l'honneur de vous rencontrer pour saluer votre leadership et votre courage, pour féliciter le peuple ukrainien pour sa défense exceptionnelle de la démocratie. Et nous sommes là pour vous dire que nous serons avec vous jusqu'au bout à vos côtés jusqu'à la victoire.
Nancy Pelosi dans une vidéo qu'elle a publié ce matin sur Twitter depuis Kiev. Alors l'autre fait marquant au 67e jour de guerre en Ukraine, c'est la première évacuation de civils de l'usine d'Azovstal à Mariupol. La ville de Mariupol sur la mer d'Azov est presque entièrement détruite. L'usine d'Azovstal est la dernière poche de résistance ukrainienne. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
Un groupe de civils avec des femmes et des enfants a pu sortir durant la nuit. Première opération menée avec succès et grand soulagement.
Oui, c'est une première parce que toutes les tentatives d'évacuation précédente avait capoté, les belligérants n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les détails qu'implique une telle opération. 20 civils selon les Ukrainiens, 46 selon le ministère russe de la Défense ont pu quitter le complexe industriel qui est bombardé sans relâche par l'armée russe. Vladimir Poutine a ordonné le bouclage de la zone la semaine dernière. Alors on ignore où ces civils ont été emmenés, mais le commandant du régiment Azov qui se bat à Mariupol affirme qu'ils ont été transférés dans un endroit sûr, mais il espère qu'ils iront ensuite à Zaporizhzhia, située à 220 km de Mariupol, une ville toujours sous contrôle ukrainien. Qu'il soit 20 ou 40, c'est certes une première, mais c'est peu, car des centaines de personnes sont encore terrées dans les galeries souterraines de l'usine Azovstal. Il serait 1000 civils et militaires à vivre dans des conditions épouvantables. Les opérations d'évacuation vont se poursuivre, selon une source qui ne veut pas s'avancer sur des dates.
Valérie Krova, merci. Aux Pays-Bas, 77 ans après, le corps d'un résistant fusillé par les nazis a pu être identifié. Aux Pays-Bas, l'identification des victimes de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation se poursuit grâce au progrès de la science. Une fondation spécialisée et les services de police scientifique de l'armée néerlandaise ont réussi à retrouver l'identité d'un homme resté inconnu depuis la découverte de son cadavre, 2 ans après la fin de la guerre. Ils ont en particulier réussi à faire un rapprochement déterminant grâce à l'ADN. Le récit à Bruxelles, Pierre Benazé.
Pendant l'occupation nazie, Cornelis Peter Kröcknit, surnommé Case, était employé au service des travaux à la mairie de La Haye. C'est là que la Gestapo l'a arrêté le 8 octobre 1944. Il imprimait et distribuait une gazette de la résistance néerlandaise, mais une erreur de livraison de papier avait entraîné une dénonciation. Il est emprisonné à Scheveningue, dans les faubourgs de La Haye, une prison surnommée l'Hôtel Orange pour la couleur nationale des Pays-Bas, du fait du nombre de résistants qui y furent emprisonnés. 3 semaines plus tard, son décès pour infection pulmonaire et pleurésie figure dans le registre de la prison. On sait maintenant qu'il a en fait été fusillé. Son corps était dans une fosse commune, exhumée en 1947. Case Kröcknit a été enterré comme des dizaines d'autres avec la mention « néerlandais inconnu ». Mais grâce à l'étiquette d'un tailleur proche de chez lui et à une prothèse dentaire, les enquêteurs du service de récupération et d'identification de l'armée de terre sont remontés jusqu'à un de ses petits-neveux et ont pu faire une comparaison de leur ADN.
Pierre Benazé à Bruxelles. Le Goncourt, version américaine maintenant, c'est une déclinaison aux États-Unis du prestigieux prix littéraire français et il a été attribué à l'autrice française Anne Berest pour son roman La carte postale, un livre enquête sur sa famille juive déportée à Auschwitz. Anne Berest décroche le tout premier Goncourt américain décerné aux États-Unis par les étudiants des grandes universités. Anne Berest joint au téléphone par Stéphane Capron.
Je crois d'abord que les Américains sont sensibles à cette idée-là, à cette question du devoir de mémoire. Je crois aussi qu'on vit une période très particulière et très bouleversante. Moi, je raconte l'histoire de ma famille, qui est une histoire de gens qui ont été, qui ont dû passer de pays en pays, qui ont tout perdu, qui du jour au lendemain ont perdu leur maison. Avec cette guerre qui est si proche de nous, je crois que ça ravive cette urgence-là et cette idée que, en fait, cette histoire de ma famille, en fait, peut être universelle et raconte une part de chacun d'entre nous, de nos peurs et de notre urgence à être attentif à ce qui se passe.
Est-ce que ce prix va permettre au livre d'avoir une carrière internationale ?
Écoutez, j'ai eu de la chance que le livre soit très vite, très vite des demandes de traduction dans le monde entier. Ce qui est certain, c'est que pour les États-Unis, je crois que ce prix Goncourt américain va permettre d'avoir sans doute un éclairage particulier à partir du moment de sa sortie.
Anne Berest, lauréate du prix Goncourt américain, jointe par Stéphane Capron. Alors, on vous a parlé dans ce journal des défilés du 1er mai. On va le refermer avec un autre incontournable du 1er mai. C'est bien sûr le muguet. Il symbolise le printemps, le retour des beaux jours. On dit qu'il porte bonheur et c'est la tradition d'en offrir aujourd'hui 1er mai. Le brin de muguet pour les fleuristes, c'est une vente qui est un petit plus. Illustration à Saint-Lô dans la Manche. Lucie Tuillier, France Bleu Cotentin.
Ni trop en avance, ni trop en retard, le muguet cette année...
Bah, il est parfait.
C'est Patricia Le Goupil, fleuriste à Saint-Lô, qui le dit.
C'est vrai qu'il y a des années, on le reçoit un peu vert, plus frêle. Là, il est ferme, il est bien blanc, il a toutes ses clochettes.
Pas de doute, poursuit-elle, nos clients habituels viendront bien chercher leur brin de muguet ce dimanche. Ça reste une tradition respectée, poursuit Aymeric Quiquet, installé lui, place du Champ de Mars.
Souvent, on est en pénurie, fin de matinée, le dimanche matin. Donc, pas mal de commandes, les gens anticipent et puis commencent à acheter... leur petit brin de muguet pour faire plaisir.
Quant à la vente de ces brins porte-bonheur sur la voie publique, ça fait aussi partie du folklore, raconte cet autre fleuriste saint-lois, Pierre Leray.
Je ne suis pas contre du tout parce que c'est aussi la tradition d'avoir les vendeurs à la sauvette et puis les jeunes ou moins jeunes, ça fait partie du truc.
L'inquiétude, c'est plutôt le porte-monnaie des gens qui s'allège avec l'augmentation du coût de la vie, craint Thierry dans sa boutique rue du Neubourg.
Avec ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas si les gens vont se déplacer, s'ils vont acheter. Depuis le Covid, de toute façon, il ne faut pas se mentir, c'est plus compliqué. Je pense qu'on va avoir la concurrence directe des grandes surfaces qui en vendent aussi.
Même si ce muguet du 1er mai, ce n'est pas une fête très importante côté chiffres, précisent ces fleuristes, en comparaison de la fête des mères qui aura lieu dans moins d'un mois.
Lucie Tullier de France Bleu Cotentin, et puis je vous rappelle la mort de Régine dont on parlait en début de journal. La chanteuse et comédienne et meneuse de revue est morte ce matin à l'âge de 92 ans. Vous pouvez réécouter sur franceinter.fr le boomerang, l'émission boomerang d'Augustin Trapenard qui lui était consacrée le 25 décembre 2015. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps calme et souvent sec aujourd'hui, avec une possibilité d'ondées sur le Jura, les Alpes et la Corse, éventuellement orageuses des Alpes du Sud à la Corse, et de fines pluies attendues en fin de journée sur le Finistère et le Calvados. Mais partout ailleurs, malgré un ciel souvent assez voilé, le temps va rester sec. Les températures cet après-midi vont atteindre un maximum de 24 degrés à Nîmes, Montpellier et Perpignan, 21 à 22 sur la Côte d'Azur, la Corse et près de la Garonne, 20 degrés des Charentes au Lyonnais et dans l'intérieur de la Bretagne, et 17 en moyenne sur le reste de la moitié nord. Demain, après les fréquentes grisailles à l'est et l'ambiance matinale assez maussade sur la Bretagne et les Pyrénées, le soleil va retrouver une bonne place avec éventuellement des ondées sur le relief l'après-midi, dans des températures de 7 à 13 degrés du nord vers le sud en fin de nuit, et l'après-midi, des valeurs en légère hausse pour la moitié nord du pays.
Jean-Michel Golinski de Météo France.